C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes mardi 1er novembre. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. J'espère que vous avez profité de la soirée de l'Halloween hier. Météo parfaite. Ça fait une couple d'années qu'on avait des conditions un peu plus difficiles. Mais hier, c'était très bien. On a de la pluie, de la bruine intermittente. Ça va cesser ce matin. Un petit peu de brouillard aussi. Le dégagement va se faire et ça va nous donner une journée quand même assez ensoleillée. 16 degrés, c'est le maximum prévu. Et pour les prochains jours, ben, le thermomètre est à la hausse, c'est-à-dire demain, à peu près comme aujourd'hui, là, 15-16 degrés avec beaucoup de soleil. Jeudi, on prévoit 17 et vendredi, on prévoit 20 degrés. Même samedi, là, si on s'étire un peu, c'est soleil-nuage avec 22 degrés. Et je rappelle qu'au mois de novembre, les températures devraient tourner en moyenne autour de 9 à 10 degrés. Donc, on est facilement, en tout cas pour la fin de la semaine, là, vendredi et samedi, avec le double. Bon, situation au tunnel, jour 2, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, j'inviterai ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'impact, que ça change pas la vie et que c'est une heure de pointe conventionnelle, d'abord à regarder ça d'un peu plus près et surtout à se donner un peu de temps. On le voit là, d'entrée de jeu, on peut affirmer ce matin qu'une voie direction sud, même quand on est à l'inverse de l'heure de pointe, c'est problématique. Je l'ai ce matin, Marc vient d'en parler puis il va revenir tantôt. Alors, c'est sûr qu'une seule voie, là, on a beau dire, on a beau faire, ça demeure extrêmement compliqué. D'autre part, hier était une journée particulière. Le lundi est reconnu comme une journée où il y a moins de circulation, un peu plus de télétravail, puis c'est aussi vrai le vendredi. Là, on a aujourd'hui, demain, jeudi. On va voir un peu comment ça va tourner. Tant mieux si les gens ont trouvé d'autres moyens. Mais je sais que pour des camionneurs, hier, c'était quand même plus long que ce qu'on pouvait connaître, par exemple, la semaine dernière, durant l'heure de pointe, qui était déjà assez lourde, là. C'est-à-dire que le flot de véhicules depuis les dernières semaines est important. Et ce que Marc disait aussi, c'est que l'heure de pointe a tendance à s'étirer un peu. Les gens voyagent à différents moments. Donc, faut attendre, faut voir. Les options de transport en commun, transport collectif, sont là. Ça fonctionne pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et c'est sûr que c'est l'après-midi, jusqu'ici, là, où c'est quand même plus compliqué. Puisqu'on parle, justement, de télétravail. Je vous donne un autre exemple ce matin, et ça concerne cette fois la Ville de Montréal comme employeur. Durant la pandémie, il y a des employés col blanc qui ont pu être en télétravail. Et là, les ressources humaines ont envoyé un message aux employés qu'on m'a partagé, et ça dit essentiellement, bon, entrave routière majeure et rappel des mesures d'atténuation pour le personnel. On sait que ça peut entraîner des problèmes pour un bon nombre d'employés. On rappelle les mesures, là, la navette, les voies réservées, le stationnement incitatif, bonification des services d'autobus existants. Alors, permettez-vous d'explorer et d'expérimenter certaines alternatives afin de trouver la solution qui répond le mieux à votre réalité. Le covoiturage entre collègues peut d'ailleurs être une option intéressante. OK, mais le télétravail. Sauf erreur, là, tous ceux qui sont passés à ce micro nous ont martelé l'importance du télétravail quand c'était possible. Notamment au début. Je dis pas pendant 3 ans. Je dis pas ne jamais se présenter au bureau. Mais le discours politique est une chose et l'application bureaucratique, c'est vraiment autre chose. Alors, voilà pour ce qui est du tunnel. On vous tient au courant, évidemment, de l'évolution ce matin. Parlons de la situation dans les salles d'urgence. D'abord, j'ai regardé le tableau ce matin en termes de fréquentation. Le taux d'occupation à l'hôpital Le Gardeur, 194%. Dans Lanaudière, tout court, là, c'est 183%. Quand vous regardez les Laurentides, c'est 157%. L'hôpital de Mont-Laurier, ça déborde. L'hôpital de Saint-Jérôme, l'hôpital de Saint-Eustache. En Montérégie, le centre hospitalier Alla-Laberge est pas loin de 200% en termes d'occupation. Le Haut-Richelieu, 114%. Le Suroît est à 163%. À Montréal, le CHUM est à 163%. Sainte-Justine, 125%. Vous avez également l'hôpital Santa Cabrini-Sandut. Je peux continuer, là. C'est comme ça tous les jours. Ce matin, dans différents médias, dont la presse, on donne les grandes lignes d'une lettre envoyée par le regroupement des chefs d'urgence du Québec au ministre de la Santé, Christian Dubé. Dans cette lettre, on affirme, les médecins affirment que le point de rupture est atteint un peu partout au Québec et les directions n'ont pas agi pour répartir la pression dans le réseau. À l'hôpital du Lakeshore, la crise est telle qu'un rapport externe évoque une bombe à retardement. Dès le 1er juin, nous avons écrit afin de sensibiliser les équipes de direction aux graves problèmes d'engorgement, de pénurie de ressources que vivent les urgences du Québec, dit la présidente de ce regroupement, Dr. Marie-Maude Couture. Dans cette lettre envoyée au PDG des établissements et au ministre de la Santé, c'est daté du 28 octobre. C'est un constat qui est fait avant même l'arrivée de ces cas, notamment chez les enfants, là, de virus respiratoires qui amènent cette pression à Sainte-Justine et à l'hôpital de Montréal pour enfants. Si on résume, la pandémie, c'est correct, là, mais c'est un problème chronique du réseau de la santé. Les salles d'urgence surchauffent parce qu'on peut pas monter les patients sur les étages, parce qu'il y a des patients qui sont là qu'on voudrait envoyer ailleurs, mais on n'a pas de place pour les envoyer, ce qui fait qu'ils restent là. Puis vous occupez tout l'espace de l'urgence dans les corridors avec des lits, puis médecine de brousse, puis personnel zigzag. Réponse de Québec, on a créé une cellule de crise. On en a parlé avec Jonathan Trudeau. J'ai envie de vous dire que je commence à douter de l'efficacité de la cellule de crise. Parce que Dr. Couture, qui est président de ce regroupement, dit que on l'a pas encore consulté. Savez-vous de quoi ça a l'air? Ça a l'air d'une patente contrôlée par les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé qui crée l'illusion d'être à la recherche de solutions, qui vous font croire qu'on est en train de parler à des gens. On envoie le ministre terrain. Mais est-ce qu'on écoute les gens du terrain? Est-ce qu'on prend la température de l'eau? Ou si, encore une fois, parce que ces gens-là, tous les sous-ministres en place, ils étaient en place au mois de juin, puis ils sont là depuis un bout. Et là, tu es en train de regarder ça, puis tu dis, eux autres, là, ils sont dans une opération pour nous faire croire que... Comment se fait-il que des médecins de la base, des gens qui ont levé la main, puis il y en a plusieurs, sont à peine consultés ou on leur font croire qu'ils sont consultés? Ça laisse entendre que les conclusions de la cellule de crise là, sont peut-être déjà programmées. Et je trouve ça assez fatigant. Puis je le sais que c'est l'omerta, puis on dit aux médecins de pas parler, puis on dit au personnel de surtout pas fréquenter les médias. Mais je sais que les gens qui ont des fortes personnalités dérangent la bureaucratie. Tu sais, prenons Dr. Liu à l'époque, là, on voulait pas l'avoir, on voulait pas l'entendre. Elle avait une expérience extraordinaire sur ces virus, puis on l'a tenu loin de la santé publique, d'une cellule de crise. On voulait pas l'entendre. Est-ce qu'on fait ça avec d'autres médecins au Québec? On est en droit de se poser la question. Ce que je pense qu'il est important de dire, il y a des problèmes chroniques, il n'y a pas une baguette magique qui va régler ça, mais je trouve que le mammouth est à son meilleur quand vient le moment d'établir des trucs de magie, de l'illusion, pour protéger l'emprise bureaucratique du ministère de la Santé. Parce que c'est de plus en plus ça. Puis quand ça ressemble à ça, ça a des grosses chances que ce soit quand même la réalité. Puis ce matin, Radio-Canada nous dit, puis on fait le tour là, rapidement, Collège des médecins qui est d'accord pour admettre plus de médecins étrangers. Donc, on pourrait avoir un taux de diplomation plus élevé, de reconnaissance, donc, pour combler les postes. Et dans la presse, on revient sur les psys, parce que ça prend un doctorat pour pouvoir pratiquer. Et ce qu'on découvre finalement, c'est que quand vous avez un étudiant sur six qui finalement se rend au doctorat, parce que c'est contingenté, parce que le parcours est difficile, Puis après ça, on se dit, ben, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de psy? Ben, ça prend du temps pour les former. Et les postes sont peu nombreux. Puis il y a une demande. Alors, est-ce que c'est le temps de revoir ça? Est-ce qu'il y a des étudiants qui pourraient jouer un rôle? On est toujours dans ce genre de questionnement. Comment faire pour combler des postes vacants puis répondre aux besoins des gens? Puis ajoutons dans la catégorie recherche d'employés, cette nouvelle dans le Journal de Montréal, plus de 1600 enseignants et professionnels sont recherchés dans le réseau de l'éducation, ce qui fait qu'on se tourne vers des profs à la retraite, vers des gens donc qui ont quitté, des gens qui vont accepter un poste à temps partiel. Puis je sais qu'il y a des gens qui se sont offerts, là, et qui disaient, ben, je peux, puis les psys, c'était la même chose, je peux donner 2 jours semaine. Puis se sont fait répondre par la bureaucratie, non, 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 on veut des gens à temps plein. On peut très bien voir pourquoi le temps plein est requis, mais en même temps, on a-tu le luxe de lever le nez sur des ressources qui peuvent aider dans certains cas. Alors, au total, donc, 1600 enseignants, 200 postes de psy et d'orthophonistes. La crise au Parti libéral, l'opération, nous allons prendre la pâte et puis on va la pâte à dents, là, puis on va ramener ça dans le tube. C'est un peu ce qu'a fait la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, hier en disant c'est allé trop loin. Et j'invite Madame Nichols à revenir, Marie-Claude Nichols, à revenir au parti. Donc, c'est ce qu'on appelle la politique de la main tendue. Très bien, c'est une belle opération. Hier, une tournée de médias pour dire voici, c'est allé, là, les déclarations. Si on fait un résumé, c'est Mme Anglade qui a expulsé Mme Nichols. Beau avoir des différends, quand t'as 21 députés, disons que tu t'arranges pour garder le monde à bord de la chaloupe. Et là aussi, t'as pas les moyens de perdre des gens. Il devait y avoir une façon d'aménager le cabinet fantôme à la satisfaction des deux. Mais on a utilisé la manière forte. Et là, on a vu la frustration des résultats des dernières élections se répandre dans l'univers. Les anciens du Parti libéral ont levé la main en disant « C'est pas la première fois que Dominique Anglade fait preuve d'arrogance et ça ne peut plus durer. » Et on a vu des gens qui sont pas là des fauteurs de troubles professionnels, mais tu sais, je pense à Lise Thériault qui est sorti puis qui a dit ça a plus de bon sens là ce qui se passe au Parti libéral. Et le constat est que c'est la pire performance aux élections. Le vote francophone est rarissime, puis on a des chicanes internes. Est-ce que Mme Anglade va se rendre jusqu'au vote de confiance? Ça reste à voir. Est-ce que Marie-Claude Nichols veut revenir au parti, donc dans le caucus? Je sais pas trop. Les gens sont assez discrets, là. Il n'y a pas vraiment d'écho. Peut-être que Jonathan va nous en dire un peu plus long tantôt. Et juste pour finir sur une note politique, on va voir si on va reconnaître ou pas Québec solidaire, le Parti québécois, avec donc un statut à l'Assemblée nationale et les budgets de recherche. Il semble que ça avance un peu. Mais ça reste, disons, à concrétiser. Puis il y a aussi notre ami Éric Duhaime, qui veut son bureau, qui veut pouvoir être actif sur le plancher de l'Assemblée nationale. Ben, il n'y a pas de réponse de ce côté-là. Et on sait que la session, c'est dans quand même quelques semaines. Maintenant, vous allez recevoir vos chèques bientôt. Justin Trudeau a annoncé ça hier. Alors, c'est le fameux crédit pour la TPS. Les chèques vont partir là, dans les prochains jours. C'est une image, hein, parce que je sais qu'il y a des dépôts. Alors, essentiellement, c'est l'équivalent des montants, ça sera un paiement forfaitaire là que vous recevez pour octobre et janvier. Pour ce qui est des montants octroyés par Québec, ben, ça risque de venir au mois de décembre. Et puis, on surveillera aussi la mise à jour économique de la ministre Freeland qui doit se faire cette semaine. Et est-ce qu'on va être encore dans un budget, disons, où les dépenses explosent? Quelle sera l'approche? Parce que l'approche de M. Trudeau, depuis qu'il est au pouvoir, puis même j'exclus la partie pandémie, là, on sait que c'est un gouvernement qui dépense et qui dépense. Il y a plusieurs analyses, j'en lisais une fin de semaine, Jeffrey Simpson dans Globe and Mail, où il disait le Parti libéral, oui, est un parti de programmes sociaux, mais c'est un parti aussi qui sait gérer ou qui a fait preuve dans l'histoire d'une responsabilité dans les finances publiques, ce qui semblait pas être le cas du Parti libéral actuellement. Et puis, un petit coup d'œil sur la scène internationale. Il y a quand même beaucoup de choses. On pourra le détailler aussi avec Jean-François tantôt. D'abord, Brésil, on peut dire que, évidemment, cette victoire de la gauche, qui n'est pas encore reconnue par le président sortant, montre finalement que, avec la faible victoire de Lula, c'est quand même une marge extrêmement serrée pour gouverner le pays. Il y a aussi toute l'histoire Pelosi, le mari de la démocrate Nancy Pelosi, qui a été attaqué avec un marteau par quelqu'un de complètement fou. Il semble que le gars avait comme plan, pensant que Nancy Pelosi était à l'intérieur de sa maison de San Francisco. Donc, l'idée, c'était de kidnapper et probablement lui briser les genoux, la frapper avec son marteau. C'est ça qu'il avait l'intention de faire. Puis je rappelle que Elon Musk, lui, qui est en train de prendre le contrôle de Twitter avec son environnement, c'est-à-dire sa garde rapprochée, avait laissé entendre que c'était une histoire d'escorte gay que le mari, M. Pelosi, aurait rencontré dans un bar, que lui était en état d'ébriété, puis a pris ça dans un torchon, puis a partagé ça, alors qu'il nous explique qu'il y a quand même des limites à dire n'importe quoi. Lui qui est maintenant le propriétaire de Twitter, puis là, il y a des gens qui menacent de quitter Twitter, faut voir, là, mais bref, on va fouiller ça un peu également ce matin. Et aussi des élections en Israël, quatrième élection en 5 ans. La proportionnelle, c'est bien, mais ça a ses inconvénients. Ça fait des gouvernements instables, et c'est le cas, si on veut, en Israël.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On sait tous que les conditions de marché actuellement inquiètent bien des gens, les niveaux d'hypothèques, l'inflation. J'en parle ce matin avec Grégoire Baillargeon, qui devient officiellement aujourd'hui président de BMO, Groupe financier Québec. Monsieur Baillargeon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand, c'est un plaisir d'être ici.
Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi votre job au Québec?
Alors, concrètement, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des services, l'ensemble des solutions qu'on a pour les clients ici au Québec. S'assurer qu'on offre une expérience client excellente. S'assurer qu'on accélère la croissance de la Banque de Montréal au Québec. On est ici depuis 200 ans. On est vraiment là pour prendre une position importante dans nos communautés.
Et quel est le poids du Québec au sein de la Banque de Montréal, au sein de BMO?
Ça demeure encore au centre de nos activités. Notre cœur bat ici. Notre siège social est encore ici.
Mais est-ce que les décisions se prennent à Toronto ou ça se prend ici pour vrai?
Alors, on a des exécutifs, évidemment. Maintenant, la banque est rendue très grande. On a des exécutifs dans bien des villes, tant aux États-Unis qu'au Canada. Moi, je suis ici, puis on a des exécutifs, des dirigeants dans chacune des lignes d'affaires au Québec qui prennent des décisions pour les clients québécois. Ici.
Puis est-ce que les clients québécois sont différents des autres clients, au Canada par exemple?
Bien, on a certainement des enjeux au Québec qui demandent une lentille précise. Langue, culture, l'écosystème québécois, la compréhension des enjeux. Alors pour nous, de prendre ces décisions-là d'ici, c'est fondamental, on le fait depuis 200 ans.
Là, je sais que c'est le mois de novembre, puis il y a une période, appelons ça avec embargo, parce que les résultats financiers vont venir plus tard. Mais là, vous prenez la direction de cette partie de la banque, là, dans un contexte, appelons ça, de tumulte un peu, d'inquiétude chez les gens. Quand vous regardez les taux d'intérêt qui grimpent, quel message vous envoyez à vos clients? Quel message vous dites aux Québécois face à des hypothèques là, qui commencent à être un peu lourdes?
Bien, je pense que le message le plus important, c'est que c'est un partenariat avec nos clients. Alors, on est là pour solutionner les enjeux. En ce moment, c'est sûr qu'on a des conditions plus incertaines. Je pense que les ménages regardent les taux d'intérêt, peuvent s'inquiéter de leurs finances personnelles. Allez voir votre banquier BMO. Venez nous voir en succursale. Appelez-nous. On est là pour offrir des solutions à ces enjeux-là. Dans les produits hypothécaires, dans les produits de crédit, il y a des structures qui peuvent faciliter.
Donnez-moi un exemple. Comment je peux, dans un contexte comme aujourd'hui, là, m'enlever de la pression?
Bien, évidemment, il y a des gens qui ont financé leurs hypothèques à taux fixe. Alors, des fois, ça peut stabiliser certaines choses. Il y a d'autres gens qui ont financé à taux variable. Dans ces hypothèques à taux variable-là, il y a différents types de produits. Il y a des produits où le paiement va en partie, évidemment, au paiement en capital, une partie en intérêt. Et ça peut se moduler dans certaines circonstances. Il y a des congés de paiement qui peuvent être faits. Il y a toutes sortes de solutions. Et ce qu'il faut vraiment, c'est de pas se cacher de son banquier. Au contraire, on est là pour trouver les solutions. On est là pour accompagner les clients. C'est ce qui nous motive de rentrer au bureau le matin. Là. C'est vraiment d'accompagner les gens dans leurs besoins financiers.
Louis Vachon, l'ancien président de la Banque nationale, disait la semaine dernière à ce micro, il n'y a pas une banque qui veut ramasser les clés des maisons. Là. C'est-à-dire qu'on a appris des crises précédentes.
Oui, puis on a structuré les produits de façon à s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme ça. La crise financière était vraiment difficile pour tout le monde. Alors, c'est certainement un des endroits où on a réussi à améliorer beaucoup de choses pour s'assurer d'avoir une économie stable, des ménages qui arrivent à passer à travers les crises. Alors, nous, vraiment, là, c'est accompagner les clients à travers les cycles économiques qu'on le fait depuis 200 ans.
Quelle lecture vous faites, justement, du cycle économique? Avez-vous l'impression qu'on est en récession, que c'est à venir, que l'inflation n'est pas sous contrôle, puis que d'ici 6 mois, on va peut-être encore subir des contre-coups de tout ça?
Bien, c'est sûr que c'est un équilibre très difficile là, pour les banques centrales à trouver. Cela dit, c'est sûr qu'on va avoir un ralentissement d'une économie qui surchauffe. Parce qu'on souffre tous de ça. Une inflation, là, c'est l'économie surchauffe. Alors, il faut vraiment arriver à une certaine contraction de ça, ralentir. Comme en voiture. Quand on va trop vite, il faut ralentir un petit peu. Essayer de faire ça doucement. S'assurer qu'on ne déraille pas, que la chaîne ne débarque pas. Puis encore une fois, nous, on est là simplement pour accompagner les gens dans ça. Quand l'économie se contracte, nous, comme tout le monde, là, les banques, nous, on va bien quand l'économie va bien. Alors, ce qu'on cherche tout le monde ensemble, là, c'est de remettre l'économie sur les rails de façon saine, puis permettre à tout le monde d'œuvrer.
Quand les taux d'intérêt grimpent, là, faites-vous plus d'argent?
Alors, on contrôle pas la Banque centrale.
Non.
La Banque centrale fixe les taux. Évidemment, nous, ce que ça veut dire, c'est que l'argent que nous, on emprunte, l'argent que nous, on déplace, elle coûte plus cher. Donc, la Banque centrale utilise ça pour demander aux banques de passer le taux d'intérêt aux consommateurs. C'est pour ça que vous voyez toujours les banques bouger ensemble là-dessus. C'est la Banque du Canada qui nous pousse là. Alors ça, on ne contrôle pas ça. Ce qu'on contrôle, c'est la structure de nos produits, les solutions qu'on offre aux clients. Alors, c'est vraiment ça qu'on met de l'avant puis qu'on conseille aux gens de venir nous voir.
Les auditeurs se demandent pourquoi c'est variable d'une institution à l'autre. Quand le taux directeur est fixé par la Banque du Canada, je me présente chez vous, vous allez me dire, OK, on peut te faire une hypothèque telle modalité, puis je peux aller voir une autre institution, ça va être différent. Pourquoi le même client peut se retrouver avec des produits différents? Offert.
Ben, tout simplement, en fait, c'est un marché compétitif. Alors évidemment, on va avoir différents moments où on va fixer nos prix un peu différemment. C'est tout à fait normal. C'est un marché qui est très sain. On cherche de l'innovation dans les produits. Pendant longtemps, la Banque de Montréal offre encore les meilleurs taux. Pourquoi? Parce qu'on cherche vraiment dans ce segment de marché-là à se rapprocher de nos clients. C'est souvent au centre des finances des Québécois, des Québécoises. Puis pour nous, c'est vraiment important d'être là au centre de la
finance. Mais ça veut dire que vous pouvez être agressif pour aller chercher, je sais pas, une part de marché ou deux de plus à Montréal. Ou à Québec, ou peu importe. Là.
Absolument. Puis c'est ce qu'on a fait. Nos parts de marché dans le bancaire au particulier ont beaucoup augmenté ces derniers temps. D'ailleurs, je félicite l'ensemble de nos employés autour de ces lignes d'affaires-là. On fait un travail remarquable et c'est un travail d'accompagnement. Je pense que les gens dans chacune des communautés où on est réalisent que le banquier est vraiment là pour les aider.
Quand on regarde de façon globale les banques canadiennes, année après année, ce sont des profits quand même spectaculaires, même quand ça va mal. Quand on est actionnaire, on est bien content. Mais on regarde ça, on se dit, est-ce que c'est pas too much? Est-ce que les banques vont pas encaisser trop de profits?
Ben, faut réaliser deux choses. Premièrement, la performance de la banque, des banques, c'est ce qui fait la solidité de notre système financier canadien. Les gens cherchent des banques qui sont solides, qui sont fiables, qui sont là à travers les cycles. On a passé toutes sortes de cycles économiques en 200 ans. Pourquoi? Évidemment, parce qu'on a une bonne performance. Une bonne performance, ça amène des bons talents. Des bons talents, ça amène de l'excellence dans le service client. Alors, c'est ce système-là qui nous solidifie nos assises. Par contre, ça vient avec une responsabilité. Une responsabilité de redonner, une responsabilité d'être là dans les communautés. Mes prédécesseurs, Jacques Ménard, Claude Gagnon, ont été très présents dans la communauté québécoise, puis on va continuer à faire ça. Ça fait partie de notre raison d'être. C'est la raison pour laquelle on rentre au bureau le matin. Faire une différence partout où on est.
Est-ce que ça amène aussi des choix éthiques à faire quand on est, par exemple, à la tête d'une entreprise, d'une banque, de regarder l'environnement? Est-ce qu'on fait des choix en disant, on va moins financer certains secteurs, on va peut-être faire moins de comptabilité créative pour payer plus d'impôts au Canada? Est-ce que ce sont des enjeux ou c'est le résultat dans le tiroir caisse qui compte seulement?
En fait, je dirais que c'est la chose qui nous motive le plus. C'est pas des enjeux. Là. Être un citoyen corporatif modèle, c'est au centre de ce qu'on veut être. Vous me parlez d'environnement. Dans l'environnement, la Banque de Montréal fait énormément de choses. On est à l'avant-scène. Je vous donne un exemple. Vous parlez d'enjeux, là. En 2010, on est devenu carboneutre. 2010. Pas parce que quelqu'un nous a imposé ça, Dans nos opérations, on est carboneutre parce que pour nous, c'est important pour la planète. On est la banque la plus durable en Amérique du Nord depuis 3 ans. Ça me choque quand on met toutes les banques ensemble dans la question de l'environnement puis des financements des compagnies pétrolières. On est à l'avant-scène de cette conversation-là. C'est pas pour nous un enjeu éthique, c'est quelque chose de fondamental. Il faut avoir cette conversation-là.
Attendez, vous dites, on vous met dans le même sac que les autres. Vous me dites quoi, que les autres font moins bien comme citoyens corporatifs?
Ce que je vous dis, c'est que la Banque de Montréal, c'est pas pour rien qu'elle remporte des prix à chaque année comme la banque la plus durable en Amérique du Nord. On a mobilisé 300 milliards sur la finance durable, mais de façon plus importante, on a mis en place des mécanismes, l'Institut du climat BMO, qui permet à nos clients de mesurer leurs émissions, de nous les rapporter et nous d'être transparents avec nos clients pour dire « voici les émissions qu'on finance ». On est la première banque qui fait la divulgation des Scope 3 Emissions. Ça, c'est les fameuses émissions financées. On n'est pas capable de le faire dans tous les secteurs. C'est très large. Ça va prendre du temps à y arriver. Mais on le fait dans le secteur pétrolier et on est prêt à le divulguer. On a commencé à le divulguer. On est la seule banque qui fait ça. Pourquoi? Parce que on est tous ensemble dans cette question-là. L'urgence climatique, elle est devant nous et c'est fondamental que tout le monde... C'est pas une course, là. On est tout le monde ensemble. Puis si les autres banques veulent le blueprint, là, on va leur donner... On est là pour avancer l'urgence climatique, la transition énergétique, d'arriver à stabiliser la situation des gaz à effet de serre.
Ça, c'est l'équité entre les citoyens dans un contexte comme celui-là. Je parlais de comptabilité créative. Il y a des organismes qui disent que les banques, dont la vôtre, se trouvent dans le top 20 des entreprises qui réussissent à éviter de payer des impôts. Pas de la fraude, là, mais c'est de la comptabilité créative, une fiscalité créative.
On est un citoyen modèle en ce qui a trait aux charges fiscales. On paie des milliards, évidemment, en impôts, des centaines de millions ici au Québec, puis on est très fiers de ça.
Mais est-ce qu'il y a de l'évitement?
Absolument pas. Mais non. Encore une fois, ça fait partie de notre rôle d'être là comme citoyen, de payer nos impôts. Non seulement ça, mais de prendre une partie de nos profits puis de retrouver d'autres endroits où on peut s'investir, participer dans la communauté. Ça chiffre en dizaines de millions de dollars à chaque année, ce qu'on fait dans les communautés, en philanthropie. Encore une fois, on parlait d'environnement il y a un instant. Les dépenses qu'on fait pour être carboneutre, c'est notre choix, là. On décide de dépenser cet argent-là. La philanthropie qu'on fait, c'est notre choix. On décide de dépenser cet argent-là et ça, on le fait avec fierté. C'est la raison pour laquelle le rôle que je prends aujourd'hui, c'est avec tellement de fierté que je le fais parce que c'est avant tout ça, faire une différence dans les communautés, faire une différence pour la planète.
M. Baillargeon, merci d'être venu ce matin.
Un plaisir, M. Arcan.
Grégoire Baillargeon est le nouveau président de BMO Groupe Financier Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons maintenant de la crise dans les urgences. Il y aura point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, 13h cet après-midi. Et vous allez retrouver dans les médias ce matin, notamment dans la presse, les extraits d'une lettre envoyée par le regroupement des chefs d'urgence du Québec. Ça date de quelques jours, mais essentiellement, le message au ministre, c'est de lui dire que le point de rupture est atteint dans les urgences. On donne l'exemple de l'hôpital du Lakeshore, où... En fait, qu'on qualifie de bombe à retardement. Vous connaissez les enjeux et ce qui est particulier dans la lettre, c'est qu'on dit au gouvernement, dès le début juin, nous avons écrit pour vous sensibiliser, vous, là, le ministre, les équipes de direction, aux problèmes d'engorgement, de pénurie de ressources. Et on s'est retrouvés donc en pleine crise, amplifiés, on peut penser évidemment, par le manque de personnel, mais par ces virus respiratoires qui touchent notamment les hôpitaux pour enfants. Alors, on en est là, et on va regarder la situation ce matin avec Dr Judy Morris, qui est urgentologue à l'hôpital Sacré-Cœur et présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Dr Morris, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on a atteint, comme disent vos collègues, un point de rupture dans le réseau?
Ben oui, malheureusement.
Ça veut dire quoi, sur un point de rupture?
Ben ça veut dire que on estime que en fait ils estiment puis avec raison que on n'est peut-être plus en mesure de fournir les soins dont nos patients ont besoin. Il y a des délais qui sont devenus carrément dangereux. On en a vu des incidents tragiques par le manque de ressources qu'on a et de place qu'on a pour traiter les patients qui entrent dans nos urgences.
Mais là, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous écoutent ce matin? C'est que si vous, si vous allez à l'hôpital, que vous avez besoin d'être vu en urgence, ça se peut qu'on vous échappe, ça se peut qu'on soit pas capable de vous traiter?
Évidemment, les gens sur le terrain, ils veulent pas faire ça. Puis tout le monde travaille pour donner les meilleurs soins possibles. Mais malheureusement, parce qu'il y a des délais, parce qu'on manque de main-d'œuvre, parce que des fois on est des patients dans des situations de surveillance sous-optimales, ben oui, il y a des événements malheureux et des délais de traitement qui peuvent survenir.
Est-ce qu'on aurait pu prévoir ça? Autrement dit, je comprends la pénurie de personnel, je comprends le vieillissement de la population, mais est-ce que le train là, qui s'accélère, est-ce qu'on le voyait venir ou pas?
Ben, on le savait depuis longtemps qu'on était près de notre capacité. Là, à chaque vague d'influenza, ça débordait. Puis plus récemment, ben, les chefs, entre autres, ils avaient écrit une lettre au PDG et DSP, DSIS et DSIUS pour leur dire la situation va être extrêmement difficile. Nous aussi, on l'a dit avant l'été. Puis là, on est encore dedans.
C'est quoi la solution?
Ben, entre autres, c'est, comme ils mentionnent dans leur lettre, c'est de dire il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Là, dans beaucoup des cas, on a l'impression que les urgences sont un peu laissées à eux-mêmes, puis que le débordement, ben, c'est l'affaire des urgences. Mais dans le fond, c'est l'affaire de tout un réseau de débordement. Là. Donc, il faut que les solutions, elles passent par l'accommodation puis l'adaptation des étages dans les établissements de soins, les hôpitaux, mais aussi les soins de longue durée. Est-ce qu'il pourrait peut-être avoir de la surcapacité ailleurs, puis laisser le temps de trouver des solutions, disons, à plus long terme là, pour dénouer la crise?
Avez-vous parlé aux gens de la cellule de crise?
Non, on n'a pas été en contact avec, mais on sait qu'ils ont déjà eu une rencontre et qu'ils en ont d'autres prévues cette semaine.
Dr. Morris, tu ne trouves pas que c'est bizarre que la cellule de crise formée pour trouver des solutions, n'ait pas encore pris le temps de vous parler à vous et à d'autres collègues médecins qui êtes sur le terrain?
Ben, je sais que par contre, ils ont parlé à plusieurs acteurs terrain. Ils ont parlé à plusieurs certains représentants des urgences. Puis d'ailleurs, ben, demain matin, on aura une table ronde sur la situation des urgences avec des représentants infirmiers du ministère des urgences, des chefs, dans le cadre de notre congrès, et le ministre Dubé sera présent.
Dites-moi, ça fait combien de temps que vous pratiquez dans les salles d'urgence?
Ça fait une quinzaine d'années.
Est-ce que ce que vous voyez actuellement, là, c'est le pire? Est-ce qu'on a atteint le fond du baril? Ou,
oui. Oui, puis c'est pire, puis c'est soutenu. C'est ça qui inquiète. C'est pas juste on a une vague d'influenza, puis oups, on reprend un peu le contrôle. Là, ça ne semble pas vouloir... nos chiffres là restent accrochés dans les 120% dans les urgences, puis c'est inquiétant pour tout le monde. Puis c'est à travers le réseau. C'est pas juste un hôpital. Plusieurs hôpitaux, plusieurs régions qui sont touchées.
Merci, Dr. Morris. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Dr. Judy Morris, qui est urgentologue à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, puis présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Alors, c'est le portrait. L'idée, c'est pas d'être alarmiste. L'idée, c'est d'être assez réaliste aussi. Et de voir que ça déborde, que c'était jusqu'à un certain point prévisible. Là. Puis on le voit, c'est toujours le même scénario, c'est-à-dire manque de personnel, les gens qui se pointent, des patients qu'on doit garder, qu'on peut pas monter sur les étages parce que les lits sont occupés par des patients qu'on voudrait envoyer ailleurs, mais on peut pas le faire. Les patients qui n'ont plus besoin de soins aussi aigus, qui nécessitent un plateau technique comme celui d'un hôpital. Bref, ça se corde, puis on les empile dans les corridors. Et c'est ça qui se passe actuellement. Et ça amène des erreurs. Ça amène un manque de supervision de certains patients. Quand vous êtes avec du TSO, là, du temps supplémentaire obligatoire, puis il y a des exemples encore d'enquêtes de coronaires qui ont dit « ben, c'est une mort évitable ». C'est pas criminel, c'est pas de la faute de l'employé, mais elle a pas eu le temps. C'est un patient qui a besoin de morphine puis aurait dû être surveillé d'un peu plus près. Puis malheureusement, on l'a échappé. Bon, l'autre volet concerne toujours cette préoccupation de trouver des psychologues dans le secteur public, dans le secteur privé, la demande est forte. Et là, ce matin, on peut lire dans la presse que il faut d'abord 6 ans d'études, il faut aller chercher un doctorat. Et s'il y a beaucoup d'étudiants en psychologie au début, ben ceux qui se rendent jusqu'au doctorat sont beaucoup moins nombreux. On parle dans cet article d'environ 1 sur 6, ce qui fait qu'on risque d'attendre longtemps avant d'avoir une masse critique de psychologues diplômés. Docteur Christine Groux est la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Docteur Groux, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Une question bête en commençant. Pourquoi ça prend un doctorat, donc 6 ans d'études, pour être un psychologue reconnu?
Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison qui est en lien avec la formation du psychologue. Vous savez, je connais pas d'autres professions où il y a une double formation. C'est-à-dire que dans les formations, en général, soit on fait des doctorats de troisième cycle universitaire, qui sont souvent des doctorats où on produit du savoir, donc de la recherche. Soit on fait des doctorats pratiques, comme c'est le cas en médecine vétérinaire, en médecine, en optométrie, par exemple, ou dans d'autres facultés. Mais en psychologie, on fait les deux. Donc, il y a une double formation clinique-recherche pour la majorité des étudiants. L'autre raison, c'est parce que on a réservé des activités en santé mentale parce qu'on les a considérées comme à haut risque de préjudice à partir de 2012. Et ça prend plus de temps maintenant former les professionnels pour qu'ils puissent être compétents selon les critères qu'on s'est donnés pour pratiquer ces activités-là, comme par exemple l'évaluation neuropsychologique, l'évaluation des troubles mentaux ou la psychothérapie.
Mais ça veut dire que les places disponibles à l'université pour aller chercher le doctorat sont très, très, très limitées?
Sont très limitées. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y en avoir plus. Il faut se rappeler qu'avant le doctorat, c'était la maîtrise qui était obligatoire. Et alors que le doctorat était obligatoire à beaucoup d'autres endroits en Amérique du Nord. Et quand la maîtrise était obligatoire, à mon époque, c'était ça. Et c'était très difficile de rentrer en maîtrise. Cela dit, je pense que si les universités voulaient revoir le cursus doctoral pour être capable de mieux répondre aux besoins de la population, mais on s'en tirerait pas en bas d'un certain nombre d'années, parce qu'actuellement, il y a deux sortes de doctorats. Après le baccalauréat, qui dure déjà 3 ans, il y a un doctorat qui est en recherche-intervention qui dure en moyenne 6 ans. Fait que là, on a une moyenne de 9 ans d'études. Mais il y a un autre doctorat, puis là, les places ont augmenté au cours des années, et c'est un doctorat qui est intervention, ou plutôt que faire une thèse, l'étudiant va faire des travaux dirigés, et celui-là prend en moyenne 4 ans. Alors donc, il est un peu plus court.
Mais ma question, c'est, est-ce qu'on pourrait former des psychologues, je ne sais pas, sur une base, par exemple, de 4 ans, leur permettre de pratiquer, peut-être qu'ils peuvent intervenir dans un nombre de champs plus restreint, mais dans le contexte où on court après des psys, est-ce qu'il n'y a pas des étudiants qui pourraient être utiles?
Ben moi, je vous dirais, en 4 ans, on n'a jamais pu former un psychologue, parce qu'avant le doctorat obligatoire, ça prenait 5 ans pour les former minimum. Cela dit, c'est sûr que si on augmentait, si on revoyait, je serais la première à m'asseoir à une table de concertation avec les départements universitaires, hein, puis le ministère, si on voulait revoir la formation, puis je pense que ce serait souhaitable de le faire pour être plus en lien avec les besoins populationnels, mais il faut jamais oublier que une partie de la formation des doctorants, c'est une formation clinique, c'est une formation pratique. Et cette formation-là nécessite des superviseurs. Donc, puis ces superviseurs-là, ben, il faut d'abord, il faut les trouver de un, il faut les attirer. Puis deux, il faut qu'il y en ait suffisamment. Maintenant, quand un étudiant fait un doctorat, il doit se greffer à un professeur à l'université. Puis le nombre d'étudiants que peut superviser un professeur a aussi ses limites. Ça faudrait revoir l'ensemble du cursus. Mais je vous le dis, je serais la première à m'asseoir à la table pour être capable de revoir comment est-ce qu'on peut mieux former plus rapidement, puis mieux répondre aux besoins de la population, mais on s'en sortirait pas en moins de 5-6 ans.
Il y a le Collège des médecins qui dit vouloir reconnaître plus et surtout plus rapidement la formation de médecins à l'étranger. Puis il y a toute une procédure à suivre. Est-ce que vous avez des psys qui vous arrivent de France, de Belgique, où vous devez valider les études, puis en même temps leur faire passer un examen, puis les intégrer peut-être plus vite au marché du travail ici?
Ben, on est un des ordres qui en accueille le plus, effectivement, puis on a développé au fil des années des moyens pour que les psychologues qui sont dans les autres pays puissent savoir exactement quels sont les critères ici. Puis les formations qui manquaient, on les a développées en ligne pour que les gens puissent les suivre, parce que ça se donnait pas dans les universités. Alors actuellement, on en accueille beaucoup, effectivement, puis on est très ouvert à les accueillir parce que, comme on dit, on manque de bras. Et je pense que les solutions sont vraiment multifactorielles, hein, parce que avoir plus de gens qui soignent, ça serait très, très, très bienvenu actuellement. Mais il va falloir s'attarder aussi sur un ensemble de causes sur lesquelles on pourrait travailler aussi sociétalement pour que les gens aient mieux.
Merci, Dr. Groulx.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir, bonne journée. Docteur Christine Groulx est la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
La crise au Parti libéral du Québec, la chef Dominique Anglade a eu un échange hier avec Marie-Claude Nichols. On ne sait pas encore si Mme Nichols va réintégrer le caucus. Il n'y a pas vraiment d'excuses, mais on lui propose un certain nombre de dossiers. Et la question qui se pose, et on en parlait avec Jonathan Trudeau tantôt, est-ce que c'est trop peu, trop tard? Est-ce que ce sera suffisant pour sauver son leadership? J'en parle avec Paul Robitaille, qui a été la députée de Bourassa-Sauvé pour le Parti libéral de 2018 à 2022. Madame Robitaille, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Qu'est-ce qui se passe avec votre parti?
J'aimerais vous donner des explications, mais je regarde ça, puis je trouve ça profondément triste. D'une certaine façon, c'est la continuation de ce qu'on a vécu durant le dernier mandat. C'est ce que je constate. Personne n'y gagne, vous savez. Personne n'y gagne. On est l'opposition officielle. Il y a des enjeux fondamentaux. Il y a une inflation de fou. Pour les gens, c'est difficile. Puis l'opposition officielle, est empêtrée dans ses problèmes internes. Puis on lave notre linge sale en public. Puis si on le lave en public, c'est peut-être parce que justement il y a des problèmes sérieux à l'interne.
Mais là, avez-vous l'impression que c'est trop tard? Là? C'est-à-dire qu'une fois que Mme Nichols est expulsée, on a beau vouloir remettre la pâte à dents dans le tube. Ouais. Là, est-ce que vous pensez qu'elle a franchi une espèce de point de non-retour?
Je sais pas, il faudrait demander à Mme Nichols, mais je pense que pour Mme Nichols, ça doit être... Quel intérêt elle aurait à revenir? Le mea culpa hier de Mme Anglade était à moitié. Il n'y a pas eu d'excuses. Je l'ai écouté à Paul Larocque. Plusieurs fois, M. Larocque lui a demandé des excuses. Mme Anglade n'a rien dit. Et je pense que ça... Marie-Claude Nichols a été vraiment traitée de façon très cavalière. On connaît pas toute l'histoire. Ça doit être extrêmement difficile pour elle psychologiquement. Elle a été complètement éjectée et elle l'a appris par voie de communiqué de presse. Une femme qui a travaillé très très fort pendant 8 ans, qui était à toutes les commissions parlementaires, qui est tombée dans le galon de peinture rouge là quand elle était petite. Et puis on l'exclut comme ça. Donc ça fait mal au parti. Mais c'est pas la première qui est traitée de façon cavalière. Et ça, je trouve ça déplorable.
Vous n'êtes pas revenu. Vous avez décidé de vous retirer de la politique. Est-ce que parce que vous avez été traité de façon cavalière, est-ce que c'était un enjeu?
Disons que comment je pourrais vous dire? On voyait peut-être pas les choses de la même façon. Et ce qui est insidieux là-dedans, M. Arcand, c'est que c'est plein de non-dits. Puis à un moment donné, on se rend compte que on est peut-être à la mauvaise place, au mauvais moment, et que la vie est courte. Puis il faut peut-être passer à d'autres choses. Moi, je vous dis, j'ai travaillé à Radio-Canada, j'ai travaillé à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, deux grandes organisations là où c'est pas toujours facile. J'ai travaillé 40 ans, mais j'ai jamais été traité avec aussi peu de respect qu'au sein du caucus libéral dirigé par Mme Anglade. Puis écoutez, je vous le dis là, puis ça me tord le cœur, mais j'ai jamais travaillé aussi fort durant 4 ans dans toute ma vie. Puis mon cœur, je l'ai donné à Montréal-Nord, puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu aucune reconnaissance. Et puis mais ce qui me console d'une certaine façon, mais en même temps c'est triste, c'est que je suis pas la seule. Il y a eu toute l'histoire de Madame Monti, il y a eu Pierre Arcan qui a été tiré en dessous de l'autobus aussi avec toute l'histoire de la Barbade. Il y a quand les officiers le savaient que Pierre partait à la Barbade, puis malgré tout, en tout cas, il y a eu plein d'histoires. Et là, Madame Nichols, et puis il y en a d'autres aussi.
Mais je voudrais juste me poser une question. On regarde ça de l'extérieur. Des crises vécues par des leaders politiques, des chefs de parti, il y en a eu plusieurs. Ce qui se démarque dans ce cas-là, puis Jonathan Trudeau pointait ça tantôt en disant aucun député actuel n'est sorti pour prendre la défense de Mme Anglade. Mmh. Comment vous expliquez ça? Pas un, là. Des gens qui sont au caucus avec elle, là, des gens qui ont reçu des dossiers, des mandats de sa part, personne ne se présente pour défendre son leadership.
Ben écoutez, peut-être que le silence parle, mais bon, on me raconte qu'à l'époque de M. Bourassa, à l'époque de M. Charest, c'était des chefs qui appelaient régulièrement leurs députés, qui avaient construit une espèce de connexion avec leurs députés. C'est pas ce leadership-là en ce moment. Et c'est malheureux. Ben en tout cas, c'est une gestion des humains qui est pas idéale. Et je pense que je serais heureux qu'il y ait plus de transparence, plus de communication, plus de vraies conversations et moins d'hypocrisie.
De façon très claire, en terminant, en tout cas, si je résume vos propos, là, la conclusion, c'est qu'elle doit partir.
Ben, c'est pas à moi de décider ça.
Non, mais pour vous?
Ben, moi, je pense que si ça continue dans ce sens-là, le Parti libéral va continuer à s'atrophier et puis et ce parti-là ira nulle part. En ce moment, je me demande où ce leadership-là s'en va.
Merci, Mme Robitaille. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Paul Robitaille a été député pour le Parti libéral dans Montréal-Nord, dans Bourassa Sauvé, de 2018 à 2022.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On retrouve Jean-François Lépine ce matin pour regarder l'actualité dans quelques pays du monde. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
D'abord, le Brésil, bien sûr, on attend depuis l'élection de dimanche de ce nouveau président, donc Lula da Silva. La réaction du président sortant, Bolsonaro, pas un mot jusqu'à maintenant. Il y a quand même quelques-uns de ses partisans là qui manifestent, mais on a hâte de voir s'il va accepter la défaite ou pas.
Oui, c'est un moment assez crucial, d'autant plus qu'il a longtemps dit, dans les mois qui ont précédé le jour de l'élection, qu'il n'accepterait pas une défaite, même s'il a nuancé ses propos dans les jours qui ont précédé le vote. C'est inquiétant, ça nous rappelle Bolsonaro, on l'appelle le Trump des Caraïbes, pas des Caraïbes, mais des tropiques. Et pourquoi? Parce qu'il y a des comportements qui ressemblent beaucoup à M. Trump. On se souvient des jours qui ont suivi la victoire de M. Biden aux États-Unis, toute l'insécurité qui a mené jusqu'au 6 janvier 2021 aux États-Unis. Ben, c'est un peu une situation comme celle-là dans un pays un peu différent où le président Bolsonaro, contrairement au président Trump, n'a pas de parti politique comme tel. Donc, c'est difficile d'identifier comme une force concrète derrière lui. Il y a beaucoup de ses partisans qui ont déjà accepté la victoire de Lula. Mais il y a son fils, par exemple, qui est un sénateur, qui s'appelle Flavio, qui a, lui, très tôt émis un tweet en disant « Levons la tête et ne cédons pas notre Brésil ». Ça a donné l'impression d'une sorte de fronde, d'une tendance à vouloir rejeter le résultat du vote. Alors, c'est toute cette question-là là, qui est en suspens. Il y a eu, dès le dimanche soir, résultat des élections, il y a eu des manifestations de camionneurs dans tout le pays, tellement que les associations de camionneurs ont été obligées de dire « on n'est pas d'accord avec ça », mais on le sait, là, on a même vu les événements à Ottawa, chez nous, tout ça peut dégénérer rapidement, surtout tant qu'il y a une sorte de flou. Même l'Église évangélique qui supportait Bolsonaro a accepté les résultats dès que le juge qui est responsable de la surveillance et de l'approbation officielle des résultats a déclaré Lula da Silva élu. Et le problème aussi, c'est que Lula a gagné par moins de 2 points de pourcentage de vote. C'est un vote extrêmement serré. Le pays est déchiré. Lula lui-même, c'est un personnage qui est populaire, mais il faut se rappeler que il a passé 2 mandats à la tête du pays, à la suite de quoi il a laissé le pouvoir à sa successeur qui a été prise dans des scandales de corruption qui en fait remontaient à l'époque de Lula. Lula lui-même a fait de la prison parce qu'il a été impliqué dans ces scandales de corruption qui ont failli ruiner le pays. Alors, c'est pas un résultat, même s'il y a de l'enthousiasme du côté des supporters de Lula, c'est une situation qui est extrêmement délicate dans un pays qui est quand même la plus grande démocratie d'Amérique latine. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que Bolsonaro, cet ancien militaire, hein, un des premiers gestes qu'il a posé le lendemain du résultat des élections, c'est de convoquer à son bureau à Brasilia le ministre de la Défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une possibilité? C'est un pays qui a été gouverné de façon dictatoriale par les militaires pendant des années, jusqu'au milieu des années 80. Est-ce que les militaires vont être tentés d'intervenir s'il y a la moindre crise? C'est une situation délicate.
Parlons de la guerre en Ukraine, Jean-François. La stratégie russe est assez claire, c'est-à-dire détruire toutes les infrastructures ukrainiennes au plus tôt avant l'hiver.
Ah oui, même le ministère russe de la Défense l'a reconnu dans un communiqué. Objectif, frapper le commandement militaire ukrainien et le système de production d'énergie de la population. Là, aujourd'hui, au moment où on se parle, dans la capitale, Kiev, par exemple, il y avait des centaines de millions de milliers de gens, pardon, qui hier avaient perdu l'eau courante et l'électricité. On dit que l'eau courante a été rétablie, l'électricité, ça s'en vient. Mais on reconnaît là, beaucoup de gens qui observent la situation reconnaissent la signature du personnage qui dirige maintenant les opérations russes en Ukraine, le général Sourovikine, qu'on appelle le général Armageddon. Ça vous dit quelque chose, ouais. Là? C'est le gars qui a dirigé, entre autres, une partie des opérations russes en Syrie en détruisant des villes entières pendant des années. Même si les Ukrainiens disent avoir détruit 44 missiles sur 50 au cours des derniers jours, là, avec dans tous les bombardements russes, il reste que les infrastructures sont touchées. Ce sont les civils, principalement, qui sont touchés. Et c'est un problème immense pour la population, surtout quand on pense à l'hiver qui s'en vient. Un revirement, par contre, que les journalistes, les correspondants sur place observent et que de plus en plus de gens analysent, c'est le fait que au début de la guerre, les Russes avaient une puissance de feu à peu près 10 fois supérieure à celle des Ukrainiens. Et depuis ce temps-là, les alliés de l'Ukraine ont fourni à l'Ukraine des pièces d'artillerie extrêmement sophistiquées, beaucoup plus précises, et on parle maintenant d'une force de frappe équivalente des deux côtés. Les Ukrainiens sont même équipés d'armes qui leur permettent de tirer à plus longue portée que les Russes et de façon plus précise. On parle même, Paul, tu l'as probablement lu toi aussi, d'obus de canons de 150 mm, 155 mm, c'est des canons à longue portée, qui s'appellent les obus Excalibur. Et ça, c'est des obus que les Canadiens ont beaucoup utilisés en Afghanistan. On dit que le Canada aurait fourni ces obus-là à l'Ukraine, même si le Canada ne le reconnaît pas officiellement. Et ce qui est inouï de ces obus-là, c'est donc très longue portée, extrême précision, parce que les obus eux-mêmes, dès qu'ils sont tirés, peuvent être téléguidés. Donc, c'est probablement cette espèce de regain là des Ukrainiens dans leur puissance sur le front qui fait que les Russes, peut-être par désespoir un peu, veulent à tout prix affaiblir les infrastructures civiles en Ukraine pour pouvoir finalement avoir raison d'une compétition militaire sur le terrain qui est quand même assez importante. Bon, une chose que je voulais dire en terminant sur l'Ukraine et qui m'a un peu découragé hier, c'est une étude du New York Times, Paul, qui dit que la Russie, si on compare aux données avant l'invasion de l'Ukraine, malgré toutes les sanctions imposées à la Russie a augmenté ses exportations dans le monde depuis le début de la guerre en Ukraine de façon très importante. 430% d'augmentation en Inde, 98% en Chine, 200% en Turquie, etc. Même en Europe, les pays européens continuent à importer massivement, surtout du pétrole, du gaz, des produits minéraux en provenance de la Russie. Et comme les prix augmentent, ben la Russie fait de plus en plus d'argent. Ça, malheureusement, c'est un constat difficile.
Un petit mot rapide sur les élections en Israël. On sait que les gouvernements se succèdent. Et là, c'est quoi la cinquième fois en l'espace de 3 ans et demi, 4 ans que les Israéliens vont voter?
C'est complètement fou. C'est un petit pays, mais un pays complexe sur le plan politique. Moi, j'ai couvert ces élections-là pendant des années à l'époque. Il y a 11 partis politiques qui siègent dans un la Knesset, le Parlement israélien, qui est un Parlement ingouvernable. Le gouvernement vient de tomber. Il avait une mince majorité de 61 députés sur 120. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, l'ancien leader du Likoud, qui est le parti le plus populaire en Israël, Benjamin Netanyahou, le même personnage, hein, qui est d'ailleurs le premier ministre qui a siégé le plus longtemps comme premier ministre dans l'histoire d'Israël, Benjamin Netanyahou, qui a une certaine popularité dans le pays, avait été obligé de quitter en 2021, donc il y a un an, parce qu'il était accusé de corruption. Le procès pour corruption a encore lieu, il n'est pas terminé, et malgré ça, il se représente à la tête du Likoud. On dit qu'il pourrait gagner encore plus de députés, mais qu'il serait incapable de former une majorité. C'est ça qui est inouï. Les partis négocient entre eux, s'échangent des millions de dollars en subventions. C'est un peu un système corrompu dans un petit pays démocratique au milieu du Moyen-Orient. Et on dit que le résultat de l'élection, donc la cinquième élection en moins de 4 ans, ça pourrait être remettre au pouvoir le gouvernement dirigé actuellement par Yair Lapid, un ancien journaliste de centre-droit, et un gouvernement, je dois dire, qui a fait beaucoup de choses intéressantes en Israël depuis qu'il est au pouvoir, depuis un an. Entre autres, Israël a négocié avec le Liban une frontière maritime qui fait que les deux pays vont pouvoir exploiter des gisements de gaz dans un climat de paix le long de la Méditerranée. Donc, ça aide l'économie du Liban, ça aide l'économie d'Israël. C'est un signe d'apaisement entre ces deux pays-là qui sont presque toujours à couteau tiré. Donc, il y a des choses. C'est une élection qui n'est pas nécessaire et qui va probablement donner les mêmes résultats. C'est à voir.
Merci, Jean-François.
Et ça se déroule aujourd'hui.
Oui, merci. Bonne journée.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.